Bonjour à tous, c'est Seb pour votre émission Ça roule, l'émission de l'automobile, mais pas que. Cette semaine au sommaire de Ça roule, histoire de l'automobile d'hier et d'aujourd'hui, avec l'histoire des automobiles morts, disparus il y a 100 ans, de par son rachat par un certain André Citroën. Ça roule va donc retracer l'histoire de ses deux frères, Louis et Émile Mort, faisant partie des pionniers et artisans de l'automobile française. Dans l'imaginaire collectif, le génial André Citroën passa directement des engrenages à chevrons à l'automobile, juste en passant par la case obus pendant la Première Guerre mondiale, sans oublier l'importance des automobiles morts dans la carrière de ce grand patron, au sein desquels il se forgea une solide première expérience automobile et qu'il finira par racheter pour servir de socle à une nouvelle marque portant son nom, Citroën. Voici donc l'histoire des frères Mort, de leur marque automobile et des débuts d'André Citroën dans l'automobile française. Allez, on commence avec un peu d'histoire, on aime bien ça dans Ça roule. Tout commence au 19e siècle. Fondée en 1851, l'entreprise familiale Mort est dédiée à l'appareillage électrique. Les deux frères Mort, Louis l'aîné et Émile Mort, tous deux centraliens, reprennent la direction de la société au début des années 1880 et la développe sur un nouveau marché, la signalisation ferroviaire. Parallèlement, les frères Mort s'intéressent aussi à une industrie naissante et balbutiante qui ne s'appelle pas encore l'automobile. Les frères se penchent sur la motorisation à vapeur de canots qui ne tardent pas à être déclinés sur Terre avec un tricycle doté du même moteur. Nous sommes alors en 1885 et les frères Mort font véritablement partie des pionniers, bien aidés, il faut le dire, par une fortune personnelle déjà bien établie et conséquente. Il faudra attendre 10 années de plus pour voir se concrétiser les rêves automobiles des frères Mort. L'entreprise familiale s'est développée fort correctement, dégageant de quoi investir dans un secteur qui, bien qu'embryonnaire, semble particulièrement prometteur. En France, René Panhard et Émile Levasseur, eux aussi issus de l'école centrale, se sont lancés au début des années 1890 et les frères Mort ne veulent pas être en reste. Ils étudient alors une voiture en vis-à-vis avec l'aide de Henri Brassier, qui fondera par la suite sa propre marque particulièrement prisée de Boris Vian, qui développe 6 chevaux et s'appelle, comme il se doit, la 6 HP. Elle est présentée au public en 1896 et rencontre rapidement son petit succès. La 6 HP est relativement perfectionnée, une vraie voiture d'ingénieur, dirait-on aujourd'hui, et séduit une clientèle très aisée pour l'époque. Entre le début de l'année 1897 et la fin de l'année 1898, 200 exemplaires verront le jour des ateliers de la rue du Théâtre dans le 15e arrondissement de Paris, qui se trouve juste derrière l'actuel quartier Beaugrenelle. À cette époque, toutes les activités industrielles des frères Mort sont rassemblées sous la même raison sociale, à savoir Société d'électricité et des automobiles Mort. Si les premières automobiles Mort, les 6 HP, étaient dotées d'un 4 cylindres, c'est vers la solution bicylindre que se dirigent les deux frères, par la suite sur la 4 HP, puis la 8 HP, lancée en 1898. Le 4 pattes, lui, évoluera en 16 HP en 1899. Dès 1897, la marque s'engage dans les premières compétitions automobiles, glanant de nombreux succès, venant renforcer l'image flatteuse des automobiles morts. Les ventes, quant à elles, ne cessent d'évoluer, tout comme la puissance d'ailleurs des moteurs, comme sur la 24 HP, sans parler bien sûr des monstrueux 4 cylindres de course dépassant parfois les 10 litres de cylindrée et les 70 chevaux. Une sacrée puissance pour l'époque. En course donc, les victoires s'accumulent, les ventes se consolident et au début du siècle, les automobiles morts disposent d'une solide réputation sur un marché de plus en plus concurrentiel mais toujours très artisanal. En 1904, les deux frères jugent leur image suffisamment installée dans l'automobile pour se passer de compétition et se concentrer sur la production des véhicules de tourisme, à savoir les 10 HP, 17 HP, 28 HP et 45 HP. Avec 1000 salariés, l'entreprise est devenue un poids lourd de l'automobile française, même si d'autres, comme Panhard, Peugeot ou autres Renault, ont déjà pris l'ascendant en termes de volume. Mais c'est en 1906 que les automobiles morts vont prendre un tournant. Après l'euphorie des débuts, vient le temps de la difficile consolidation. L'enthousiasme de ces pionniers de l'automobile française a fait oublier l'orthodoxie financière qui leur avait permis de faire fortune dans la signalisation ferroviaire. Le manque de trésorerie se fait cruellement sentir alors. Pour éviter une catastrophe, l'activité automobile est séparée des autres activités. D'autant que l'année 1907 s'avère encore plus difficile. La crise économique, passant par là, tandis que la crise des banques aux États-Unis, à la fin de l'année, touche l'Europe et complique sérieusement les capacités de financement de l'entreprise. Mais cela, c'était sans compter sur le hasard, qui parfois fait bien les choses, il faut le reconnaître. L'un des actionnaires et administrateurs des automobiles morts, André Hartbecher, n'est autre que le beau-frère d'Hugues Citroën, frère d'André Citroën. Ce dernier a fondé en 1905 sa société exploitant les brevets d'un ingénieux engrenage à chevrons, Hirschting, Citroën et compagnie. Hugues est alors président de la chambre syndicale des négociants en diamants. A financé cette première entreprise donc et connaît l'énergie et les qualités d'organisation de son frère qu'il recommande bien sûr à son beau-frère. Une histoire de famille donc. Sollicité donc par Hartbecher lui-même, André Citroën rejoint donc en 1908 les automobiles morts en qualité de directeur général, tout en conservant bien sûr ses activités d'engrenage. André Citroën va dès lors se passionner pour l'industrie automobile, une passion qui ne le quittera plus. Il va s'atteler à rationaliser le plus possible la production, à réorganiser la gamme pour répondre précisément aux demandes d'une clientèle de plus en plus exigeante, améliorer les modèles dans le détail sans révolutionner la technique pour autant, cesser de produire en interne les moteurs en faisant appel au constructeur belge de l'époque Minerva qui fournit de nouveaux blocs sans soupape. Mais pour cela, il faut soutenir et améliorer la production. Et Citroën va donc investir dans de nouvelles machines et s'intéresse aux nouvelles méthodes américaines, au point d'ailleurs de se rendre aux USA, chez Ford, en 1912, pour voir de ses yeux l'intérêt d'une production de grande série. De retour des États-Unis, André Citroën va donc mettre en pratique ce qu'il a vu aux États-Unis chez Ford. Et ça marche. Les ventes se redressent peu à peu, passant de 300 ventes en 1908 à 647 en 1910. Mais pour arriver à cela, il n'a pas eu que le voyage aux États-Unis qui a été bénéfique. André Citroën a dû s'entourer, et bien s'entourer. Et d'ailleurs, il va être aidé par le dynamisme d'un proche, qui est Georges-Marie Hard, nommé directeur commercial à l'époque. Pourtant, les automobiles morts n'étaient pas encore totalement sortis d'affaires. Malgré l'impressionnant sursaut de l'entreprise, tout n'est pas encore réglé. Les automobiles morts sont encore endettés auprès de l'industriel Théodore Schneider, producteur de véhicules lourds à Lyon et qui se verrait bien faire main basse sur la prestigieuse marque parisienne. Mais André Citroën va encore jouer d'un atout avec un autre de ses amis, le richissime tailleur de diamants Atanik Eknayan, qui rembourse une grande partie de la créance des automobiles morts. Ce dernier sera bien entendu l'un des financiers de Citroën au moment du lancement de sa propre marque. Allez, à présent, on va se faire une petite page musicale avec Indochine No Name et on se retrouvera tout de suite après pour la suite de l'histoire des frères morts, ces pionniers de l'automobile française. A tout de suite!
ciel qui nous appartient et tout ce qu'on y trouvera. C'est juste un endroit pour toi et moi. Sous les volcans, regarde-moi et souris-moi. Est-ce que ton cœur bat pour moi? Et que personne ne nous fracasse à notre place.
C'était Indochine avec No Name. Allez, sans plus attendre, on retourne donc à la suite de l'histoire des frères Mohr, ces pionniers de l'automobile française. En 1914, les chiffres progressent toujours, atteignant les 1200 unités fabriquées et vendues. Certaines seront réquisitionnées par l'armée avant même leur sortie de la rue du Théâtre, après la déclaration de guerre de la Première Guerre mondiale. Bientôt, ce sont les ateliers qui seront réquisitionnés à leur tour pour produire des obus. Dans le même temps, André Citroën a pu observer qu'un peu plus au sud des établissements Mohr se trouvait encore une zone maraîchère, non urbanisée. Il fait alors main basse sur ces nombreux terrains pour y construire une usine ultra moderne, prête à fournir des obus en grande quantité, bien plus que chez Mohr. C'est d'ailleurs lui qui a convaincu le ministère de la guerre de l'époque, par l'intermédiaire de camarades polytechniciens, de produire en masse des obus à la cadence de 20 000 par jour. Dès 1917, André Citroën réfléchit à l'après-guerre et étudie un projet de voiture luxueuse avec Gabriel Voisin. Vite abandonné d'ailleurs pour se consacrer à une voiture populaire développée avec Jules Salomon, créateur des modèles le Zèbre. Cette même année, Louis Mohr décède, laissant son frère Émile à la tête de l'entreprise, toujours secondé par un Citroën qui a déjà la tête ailleurs et rêve de reproduire en France ce que Henry Ford a réussi aux États-Unis. À la signature de l'armistice, Émile Mohr tente de relancer son activité automobile, mais se trouve confronté et dépendant de Minerva, dont l'usine, bombardée pendant la guerre, peine à retrouver ses capacités de production. En 1919, André Citroën rachète alors les automobiles Mohr tout en lançant sa propre marque. L'entreprise de la rue du Théâtre doit produire des voitures de luxe quand Citroën se réserve un marché plus populaire avec sa Type A. Si les automobiles Mohr conservent une certaine indépendance, elles n'intéressent plus autant son patron. Les modèles sont certes luxueux et dotés d'élégantes carrosseries, mais s'avèrent dépassés. On tenta même de relancer au sein des automobiles Mohr un modèle d'avant-guerre, la 10HP, qui sera renommée pour le moment 12-16HP en entrée de gamme, voire de proposer des modèles carrossés à l'usine. Mais rien n'y fait, d'autant plus que les automobiles Citroën prennent de plus en plus de place au sein même de l'entreprise Mohr. Le bureau d'études de la marque au chevron s'installe même en 1918 au sein même de l'établissement Mohr ainsi que le centre d'essai. on y fabriquera même des Type A de la marque au chevron. Mais à son idée de voiture populaire de grande diffusion, André Citroën va donc finalement décider d'arrêter les frais avec les automobiles morts qui disparaîtront en 1925, laissant définitivement la place aux automobiles Citroën avec le dessin que l'on sait. C'était l'histoire des automobiles morts. Voilà, cette émission se termine avec, comme je le dis toujours, le temps qui nous était imparti est parti avec cette émission sur l'histoire incroyable de ces deux frères incarnant les pionniers de l'histoire de l'automobile française, les frères Mort. Ça roule, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis quant à moi la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça roule. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route.